Beaucoup d'études ont été entreprises et ont été menées afin d'expliquer, afin de démontrer, afin d'authentifier la venue de Jésus, son ministère, ce qu'il a accompli. Et je me dis qu'on aurait pu en écrire certainement pas mal de bouquins, de thèses. Peut-être que la meilleure réponse, nous l'avons en quelques mots, à peine quelques mots, que l'on trouve à la fin de l'évangile de Jean. Au chapitre 20, je vous cite cela, au verset 30, il est dit ceci. « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. » Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est ce qui sort de ce texte. Et je me rends compte finalement que tout nous a été laissé comme témoignage et tout ce qu'on écrirait par-dessus ne viendrait que rajouter certainement, mais la réalité elle est là certainement. Nous avons tous sous les yeux, tout a été écrit. Et je trouve assez remarquable qu'on trouve cette vérité à la fin du bouquin. À la fin du livre, à la fin de l'évangile que Jean a écrit, parce que en général, on pourrait donner raison à un livre, encourager les personnes à lire ce livre avec un prologue, avec un préambule, en expliquant tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez voir est là pour prouver la puissance de Dieu, l'intervention miraculeuse de ce Dieu-là. Et là, les choses sont faites à l'envers. On raconte l'histoire de Jésus, et quand on arrive tout à la fin, une fois que chacun peut se poser les bonnes questions en se disant « Mais est-ce donc vrai? Est-ce que ça va jusque-là, ce témoignage? Est-ce que c'est authentique de croire tout ce que l'on a lu ?» Eh bien, la réponse vous est donnée. Vous pouvez croire cet après-midi que Jésus est le Sauveur, qu'il est le Christ, qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. J'aime bien, dans le fond, ce que Jean a fait. Il veut prouver que Jésus est le Fils de Dieu, et pour le prouver, il rappellera tout ce que Jésus a fait. D'ailleurs, ce ne sont pas les hommes qui prouvent, qui ont besoin de prouver qui est Jésus, mais Jésus l'a prouvé tout seul. Il l'a prouvé lui-même par les miracles, par les prodiges qui ont été accomplis, et Dieu sait qu'il y en a eu. Au début de cet évangile de Jean, il est rappelé au commencement, ça nous rappelle d'ailleurs un texte que l'on trouve dans la Genèse, « Au commencement était Dieu ». Mais dans ce passage précisément, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis, un peu plus loin, il est précisé que la parole s'est faite chair, elle s'est incarnée, j'oserais dire qu'elle s'est personnifiée, et en se personnifiant, elle s'est immanquablement personnalisée. Et je reste persuadé, là aussi, que cet après-midi, il y a une parole de Dieu pour chacun, parce qu'on est différent, elle sera différente, elle nous atteindra de différentes manières. Mais sachez une chose, acceptez cette vérité-là. Jésus est venu avec grâce et vérité, non pas avec loi et jugement. Souvent, quand quelqu'un arrive avec ses nouveaux préceptes, on attend de lui des règlements, des ordonnances. Il y a des années de cela, des hommes ont fait le buzz. On a parlé d'eux parce qu'ils étaient capables, disait-on, de relever des entreprises. Donc, on cherchait à percer leur méthode. Comment font-ils? Ils arrivent dans un endroit, l'entreprise périclite, ça ne marche pas. Et puis, au bout de quelques mois, l'entreprise est florissante, tout est reparti. Quel est leur secret? Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, on a étudié ces cas-là, on a essayé de percer un petit peu ces mystères. Mais on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de magie et que l'argent que l'on retrouvait ici, on l'avait enlevé d'ailleurs. Et souvent, il y avait eu de grandes coupes dans les budgets, dans les personnels, etc. Bref, à l'évidence, il y avait des règles et les règles étaient très dures. Jésus n'est pas venu avec des règles, on en a assez, avec des règlements. Je pense qu'on en a largement là aussi. Mais il est venu avec grâce et vérité. Il est venu avec vérité, il est venu avec grâce. Alors vous allez voir avec moi de quelle manière il s'est adressé à différentes personnes, de différentes manières, et vous allez comprendre que le message est littéralement personnalisé. Je voudrais que ce message de l'Évangile puisse être personnalisé pour vous cet après-midi, et qu'ainsi il puisse vous toucher. Il y a une remarque, une réaction de Jésus assez surprenante, non pas dans ce qu'il a dit, mais plutôt dans ce qu'il n'a pas dit à un moment donné, qui est surprenante. Et on trouve cette histoire dans l'évangile de Matthieu. J'ai noté au chapitre 15 et au verset 21, du verset 21 au verset 28, l'histoire d'une femme qui vient de loin. Elle a fait pas mal de kilomètres pour se rendre du côté de la Palestine et elle a cherché à rencontrer Jésus. Elle venait du nord, elle venait du pays du Liban. Et elle est arrivée à trouver Jésus avec un fardeau, un poids qui pèse sur sa vie, qui est abominable. Et elle va l'expliquer en peu de mots. Elle va s'adresser à Jésus en disant « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon, par un démon. Ma fille est malheureuse. Ma fille vit un drame, nous avec. Ma fille a la tête à l'envers. Ma fille va pas bien. Il y a quelque chose qui marche pas en elle. Elle est complètement en décalage aujourd'hui. On pourrait presque dire que il faut l'hospitaliser régulièrement. Elle a été suivie par les psys. Ça fonctionne pas. Il y a des choses qui ne marchent pas bien dans sa tête. Elle a pas d'avenir. Elle est pas équilibrée. Aie pitié de nous. » C'est de cette manière-là que cette femme vient vers Jésus pour exposer sa douleur. Et quand on connaît le ministère de Jésus, quand on voit de quelle manière Jésus a agi et de quelle manière il s'est manifesté, on se dit que cette femme, elle a été drôlement inspirée parce qu'elle ne pouvait pas mieux tomber. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un de malade, vous avez un enfant qui va peut-être mourir et on ne sait pas comment soigner ses états d'âme, son être tout entier. Et puis vous avez le bonheur de rencontrer Jésus, vous avez la possibilité de rencontrer celui dont on dit qu'il guérit tous les malades. Mais elle ne pouvait pas mieux tomber. Donc à Jésus, elle va exposer sa détresse, elle va exposer son malheur. Chose étonnante, Jésus ne lui adresse même pas la parole. Bizarre, pas un mot, s'arrête même pas, continue sa route. Et cette femme, un peu interloquée, on l'imagine, va continuer. Elle va suivre Jésus qui, visiblement, n'a que peu d'intérêt pour elle, apparemment. Je parle d'un message personnalisé. La rencontre de Jésus avec cette femme est totalement personnalisée, mais à vue d'œil, on a plutôt l'impression qu'elle est impersonnalisée, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, cette femme, totalement transparente. Elle aimerait se faire entendre, et c'est comme si elle criait dans le désert, il n'y a personne qui répond, et pas Jésus. Ça a été tellement insistant, ça a été tellement pesant, qu'à un moment donné, même les disciples vont s'adresser à Jésus, fort de la réaction de Jésus, qui justement ne s'est absolument pas intéressé à elle. Et ils vont demander à Jésus de faire une chose. Est-ce que tu peux pas au moins lui demander de s'en aller ? Si tu ne lui dis rien, est-ce que tu ne veux pas lui dire qu'elle s'en aille ? Elle crie derrière nous, on supporte plus ça, dis-lui de partir. Comment comprendre toutes les leçons de ce texte ? Parce qu'une fois de plus, Jésus laisse un moment l'histoire se faire, et puis enfin, il va dire quelque chose, mais il va dire quelque chose. C'est à se demander si quand il ne parlait pas, c'était mieux. Parce que là, quand il va dire quelque chose, il va s'adresser à ceux qui sont là pour que cette femme puisse l'entendre également. Et il va dire « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Cette femme est une étrangère, ce n'est pas une juive. Elle n'est pas d'Israël. Elle n'a pas embrassé cette croyance. Ce n'est pas dans ses gènes, ce n'est pas, c'est pas son héritage, ce n'est pas sa culture. C'est rien de tout cela. C'est une étrangère. Et vous savez comment les étrangers étaient perçus à l'époque ? Ça va vous surprendre. Comme aujourd'hui. De la même manière. C'est-à-dire très mal perçus. On a toujours peur de l'étranger, on n'aime pas l'étranger. Moins on s'en occupe, mieux on se porte. C'est souvent ce qu'on remarque. Et on dirait même d'ailleurs, si l'étranger passe par là, surtout, bienvenue et ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on faisait à l'époque. Qui tu es, on ne te connaît pas, laisse-nous tranquille, tu nous casses les pieds. Mais dans le fond, ça a été radical pour les disciples. Elle n'a rien à voir, elle n'a rien à recevoir, elle n'a qu'à s'en aller. Et les mots de Jésus semblent appuyer cela. Quel accueil ! De quoi vous glacer l'atmosphère en un instant. Quel accueil ! Écoute, ma petite dame, je ne suis pas venu pour toi. Moi, je suis venu que pour les Juifs. Je suis venu pour les bénir. Je suis venu pour guérir leurs enfants malades. Je suis venu pour les délivrer de leurs infirmités. Je suis venu pour leur donner le sommeil. Je suis venu pour leur donner la paix. Je suis venu pour leur donner le bonheur. Je suis venu pour que leur malheur et que ce cycle sans fin du malheur qui s'abat sur eux s'arrête en un instant. Mais pour toi, il n'y a rien. Mais c'est affolant d'entendre une parole comme ça. C'est déprimant. Vous entendez cela, vous allez vous jeter sous le train. Hein. Quoi qu'à l'époque, ça risquait pas. Mais vous cherchez à vous suicider, vous cherchez à mourir, à disparaître. Il n'y a pas d'avenir. Si même Dieu se désintéresse de vous, il n'y a pas d'avenir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se désintéresse de personne. Ce qui laisse à penser qu'il pourrait se désintéresser de quelqu'un, c'est qu'on ne comprend pas l'approche, on ne comprend pas le message. On ne voit pas pourquoi il n'agirait pas avec nous exactement de la même manière qu'il a agi avec l'autre. Mais sauf que vous n'êtes pas l'autre. Et comme vous êtes différent, Jésus va venir personnellement vous interpeller. Il va vous parler personnellement. Et ce qu'il a à vous dire, personne d'autre n'a besoin de l'entendre et ne pourrait l'entendre d'ailleurs. Mais ce qu'il a à vous dire, vous devez l'entendre. Cette femme devait entendre cela. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'y a pas de place pour l'étranger, il n'y a pas de place pour celui qui n'est pas du pays, il n'y a pas de place pour lui. C'est un malheur terrible, évidemment, mais devant cette tragédie, devant cette difficulté, les disciples ont la réponse toute faite. Comme on ne sait pas soigner et on ne sait pas guérir, il n'y a qu'une solution, dis-lui de partir. On a souvent évacué les problèmes comme ça. Comme on ne sait pas les régler, on les évacue, on les met dans un placard. On les enferme, j'ai pas de problème, non, ça va. Mais je me souviens, tu m'avais dit que non, tout va bien. C'est pas vrai, hein. Mais comme on n'a pas réglé le problème et qu'on ne veut pas l'avouer, ben on fait comme s'il n'existait pas. Alors cette femme, on va évacuer le problème, on va la renvoyer, parce que la difficulté, on ne sait pas la gérer. Sauf que cette femme, elle crie sa douleur. Et qui est prêt à l'entendre? Visiblement, les disciples, non. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que le monde est prêt à entendre votre douleur. Je ne suis pas sûr. Que le monde est prêt à entendre vos malheurs, vos pleurs, vos souffrances. Je ne suis pas persuadé qu'il soit totalement prêt à écouter tout cela. Quelquefois, il préférera se boucher les oreilles, fermer son cœur, faire comme si tout allait bien, et puis on étouffe la conscience. Le silence de Jésus aurait pu, à un moment donné, donner raison aux disciples. Puisque les disciples, eux, voyant que Jésus ne dit rien et que finalement ce qu'il lâche est un missile à l'attention de cette femme, il n'y a rien pour toi, ben là ils s'enhardissent et puis ils vont insister en disant « Écoute, dis-lui de partir, il faut qu'elle parte maintenant !» Sauf que le silence de Jésus ne donne pas raison à ces gens-là, mais donne raison à une vérité, c'est que Dieu est un Dieu de compassion. Ce que les hommes n'avaient pas, de la compassion ils n'en avaient pas, ou alors ils en avaient jusque-là. Mais comme il fallait aller jusque-là, ben ils n'en avaient plus. Tandis que Jésus en a eu de la compassion. Il en a eu pour cette femme. Et je reste persuadé que Jésus a la compassion pour chacun d'entre nous et pour vous aussi. Si j'essaye de comprendre pourquoi Jésus s'est tu et n'a rien dit au départ, et si j'essaye de comprendre pourquoi Jésus lui a dit « Écoute, je ne suis pas venu pour toi, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens, aux petits chiens », c'est ce qu'il va lui dire. Si cette femme a eu besoin d'entendre cela, j'essaye d'analyser le contexte et je me dis que le message est excessivement personnalisé. Aujourd'hui, on voudrait faire de l'Évangile un message très basique, que tout le monde peut accepter, que tout le monde peut entendre et surtout qui ne gênera personne. Moi, j'ai un peu de mal quand je discute avec des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ont leur croyance, qui ont leur Dieu, qui ont leur pratique, et qui me disent, de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. J'ai un peu de mal avec ça. De Dieu, il n'y en a qu'un. Mais ils disent souvent cela pour dire, écoutez, le vôtre ou le mien, c'est pareil. Hein. J'ai du mal avec cela. J'arrive pas à arrondir l'angle. C'est trop différent. À un moment donné, Jésus dit à cette femme, écoute, tu es une étrangère. Finalement, pourquoi te ferais-je du bien? Puisque on ne va pas donner la nourriture réservée au peuple d'Israël. On ne va pas la donner à ces étrangers. Hein. Qui tu es pour avoir besoin que je m'occupe de toi? Cette femme avait besoin d'entendre la vérité. C'était une étrangère. Elle avait besoin de s'humilier parce que ce qu'elle a pris ce jour-là en pleine face, c'était dur à supporter quand même. Ben, au lieu de se mettre en colère, elle s'est humiliée. Et elle a dit, d'accord, un petit chien, pourquoi pas. Mais dans le fond, les chiens sont souvent pas sur la table. Hein. Parce que les vôtres, ils ne sont pas sur la table. Hein. Ils sont sous la table. Sous la table. Ben, sous la table, il tombe toujours quelque chose. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'aspirateur Black & Decker hein, pour nettoyer la table. Hein. Même si la table était au ras du sol. En général, on laissait et puis les animaux s'occupaient du reste. Hein, manger les restes, tout ce qui restait, etc. Quelques miettes qui tombent, les chiens s'en contentaient. Et cette femme de dire, je mérite rien. Dans le fond, elle avait raison. Ma fille est malade et qu'est-ce que je peux faire contre ça? Moi, je voudrais que tu la bénisses. Tu me dis que je suis une étrangère, qu'il n'y a rien pour moi, j'accepte. Tu me dis que je suis une misérable, pas de problème, j'accepte tout. Mais s'il te plaît, fais-nous grâce. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pris ce jour-là en pleine figure? Et elle a tout avalé, elle a tout accepté. Elle avait besoin de s'humilier, mais elle avait besoin de foi. Et béni soit Dieu, elle avait la foi, elle a eu la foi. Si cet après-midi, vous ne voulez pas écouter et entendre que vous êtes pécheur, que vous êtes un voyou, que vous êtes quelqu'un de mal attentionné malgré tout ce que vous pensez, et si vous n'acceptez pas de vous humilier devant Dieu, la foi ne pourra pas changer quelque chose dans votre vie. C'est impossible. Il manquera l'essentiel. Cette femme a compris qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle était venue chercher dans la mesure où elle acceptait tout le message que Jésus venait de lui délivrer. Cet après-midi, le message de l'Évangile est très clair et on va y venir avec les textes suivants. Il faut tout accepter, on ne peut pas trier. Quelqu'un un jour s'est amusé à décrire sur un dessin ce qu'était la religion d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on est à la mode du bio hein, et du light. Donc aujourd'hui, c'est light. Donc il y a beaucoup de choses sans sucre, sans machin, sans truc. Et lui, il avait aménagé sa religion, il avait une Bible light. Et on voyait finalement la Bible qui était très très fine. Et on voyait sur les images d'avant qu'il avait arraché tout ce qui ne lui plaisait pas. Tout ce qui était contraire à son régime de vie. Et dans le fond, il avait une Bible très light, il ne restait que quelques pages, qui pouvaient à peu près le satisfaire. C'est tout le message que l'on accepte, sinon on n'accepte rien, sinon on n'accepte rien. Un jour, un homme qui n'était pas du tout dans la même circonstance et dans la même situation que cette femme, lui, c'est un homme cultivé, lui, c'est un homme riche, lui, c'est un homme aisé, c'est un homme à qui rien ne manque, c'est un homme instruit, c'est un homme sérieux, mais c'est un homme qui a soif de Dieu. C'est incroyable que même chez les grands intellectuels, il puisse y avoir une soif de Dieu. Quelque part, c'est normal, nous, ça ne nous étonne pas, parce que vous remplissez pas le cerveau et le cœur avec la même matière, hein. Ce n'est pas la même chose qui peut aller dans ces deux endroits différents. Et cet homme, qui était un homme très instruit, ministre en son rang de l'État d'Éthiopie, donc ministre de la reine Candace d'Éthiopie, était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu pour se présenter à Jérusalem pour chercher la face de Dieu. Et la Bible dit qu'après avoir fait son pèlerinage, il s'en retournait chez lui, assis sur son char, il rentrait à la maison, et puis il avait choisi de prendre quelques livres sacrés, livres du prophète Ésaïe, et pendant qu'il s'en retourne, il lit à haute voix ce qui est écrit, ou il fait lire ce qui est écrit, et on comprend que derrière cela, il y a certainement une envie, une soif de comprendre. Un homme que Dieu a choisi, qui s'appelle Philippe, qui est un évangéliste, se tient au bord du chemin quand le char passe. Et au moment où le char passe devant lui, il entend effectivement que cet homme était en train de lire le prophète Ésaïe. Alors, Philippe va interpeller cet homme immédiatement. Et la première phrase la première question qu'il va lui poser, la première manière dont il va l'aborder, c'est simplement de lui demander, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? La réponse de cet homme, moi je la trouve remarquable. Je la trouve remarquable. Parce qu'aujourd'hui, quand des journalistes essayent de piéger des hommes politiques sur des paroles, sur des mots, sur des... Ils vous tournent la chose de mille et une manières, mais ils ne veulent pas être pris par défaut, en général. Ils ne vont jamais vous dire « ben, je ne sais pas » ou « j'ai tort ». Non, mais vous comprenez, c'est parce qu'en fait, ils voulaient dire que... On vous tord la chose dans tous les sens. Et quand cet homme s'adresse à ce ministre en lui disant, hey, « Hé ministre, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Cet homme, mais alors sans aucun amour-propre, sans être vexé au-dedans de lui, va répondre, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Comment le pourrais-je ? Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas un guide ? Si ça ne s'éclaire pas un peu ? Si quelqu'un ne vient pas m'aider pour comprendre cela ? Moi, je trouve sa remarque assez fascinante parce que c'est très rare. Je ne sais pas si vous êtes comme ça ou si vous connaissez des gens comme ça, mais c'est quand même assez rare de rencontrer des personnes qui vous diront « j'ai besoin d'être éclairé ». Vous êtes au supermarché, vous réglez vos courses à la caisse, et il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis un peu paumé, je ne sais pas quel est le sens de la vie, vous ne pouvez pas m'éclairer, s'il vous plaît ?» Ça, c'est rare. Hein, ça vous est déjà arrivé, vous ? Ça, c'est rare. Ce serait bien que ça nous arrive un peu plus. Mais on s'aperçoit que, oui, au contraire, les gens vous parleront du malheur du monde, des tragédies, et ils vous donneront leur explication, parce qu'ils ont tous une explication. Quelquefois loin de Dieu. Cet homme va être honnête et il va dire « J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'une révélation, j'ai besoin qu'on m'explique. » Alors Philippe va monter sur le char avec lui et il va lui expliquer. Mais ça va être très simple. La Bible dit qu'il va prendre le passage que cet homme était en train de lire et puis, à partir de ce passage, il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet homme est en train de lire un texte qui a été écrit par le prophète Ésaïe 700 ans avant que Jésus ne vienne. Alors quand vous commencez à expliquer l'histoire d'il y a 700 ans, pour arriver rapidement à Jésus-Christ, l'écart il est grand quand même. Là vous faites un grand écart, hein, pour de bon. Sauf que tous les textes étaient reliés. Il y avait une cause, et il y avait un effet, il y avait quelque chose qui avait été dit ici pour expliquer ce qui arrive là maintenant. Donc c'était très facile pour l'évangéliste. Et l'évangéliste de dire, eh bien écoute, ce que tu viens de lire, il a été mené comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Il a été facile pour Philippe de dire, tu vois, tu me demandais si Ésaïe parlait de lui, ou s'il parlait de quelqu'un d'autre, eh bien moi je t'annonce qu'il parlait de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et de fil en aiguille, il a amené à comprendre que Jésus était le Messie. Quand on est ouvert, quand on est disposé, quand on est simple dans sa réflexion, je crois qu'on peut tout saisir et on peut tout comprendre. J'en prends à témoin le brigand sur la croix, un des deux brigands, dont la vie était quasiment fichue, et qui, à un moment donné, va se tourner vers l'autre brigand parce qu'il vient de comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que tu insultes ce Jésus qui est là ? Nous méritons notre châtiment, nous sommes là, parce que nous avons commis des crimes. Lui n'a rien fait de mal. Quelle révélation ! Si vous estimez que Jésus n'est pas celui qui peut vous soulager, vous bénir, la vérité vous échappe. La vérité, c'est que Dieu a choisi Jésus pour apporter le salut. C'était ça la vérité. Ça se résumait à cela. Le salut arrivé par Jésus-Christ. Et c'était tout simple. Et cette autre vérité, c'est que ce n'est pas vous qui allez faire plaisir à Dieu en l'acceptant, mais c'est vous qui allez vous faire plaisir en réalisant que depuis fort longtemps, Dieu vous a choisi et il vous a appelé. Résister et attendre que, je ne sais pas, les années passent, ce serait dommage. C'est aujourd'hui le temps du salut, c'est aujourd'hui le temps de la grâce. Puis il y a une troisième vérité qui a été dite. La première de ces vérités, c'était celle-ci, « Je ne suis pas venu pour toi, tu es un étranger ». Mais la Bible nous rappelle que Dieu aime l'étranger. La deuxième chose, comprends-tu ce que tu lis ? As-tu compris le message de Jésus, ce que Jésus a fait ? Et le dernier point sensible, c'est que pour l'accepter, il faut naître de nouveau. Pour l'accepter, il faut mourir et naître à nouveau. Alors ça, physiquement, on est incapable de le faire encore. On n'a pas appris à ressusciter, on ne sait pas. Ressusciter quelqu'un qui meurt, c'est totalement impossible. On peut empêcher, autant que faire se peut, quelqu'un de mourir. Alors on va y mettre toute la médecine et toute la science pour l'aider, mais à un moment donné, c'est évident qu'on ne peut pas faire plus et on ne peut pas ramener quelqu'un de la mort. Il faut naître de nouveau. Il faut que tu meures et il faut que tu ressuscites. Si ça ne peut pas se faire physiquement, là, cet après-midi, quoique Dieu pourrait le faire, mais ça peut se faire spirituellement. Et c'est exactement ce que Jésus va enseigner à un homme, pas n'importe qui, s'il vous plaît, quelqu'un qui est réputé pour être un théologien, un ancien, un docteur de la loi, quelqu'un de respectable, quelqu'un de respecté, quelqu'un à qui on ne va pas faire la leçon. On ne va pas aller vers cet homme, il s'appelle Nicodème, en disant « Nicodème, j'ai quelque chose à t'expliquer parce qu'il me semble que tu patauges un peu dans les vérités du judaïsme. Je vais t'en expliquer quelques-unes. » Personne ne se serait permis de faire cela. C'est un homme cultivé, un homme intelligent, un homme sensible et un homme qui aime les choses de Dieu. Alors il va aller vers Jésus, c'est lui-même qui va vers Jésus, avec quelques questions sur son cœur. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires et qu'il voulait éclaircir. Et quand il se trouve devant Jésus, alors qu'il voudrait discuter un peu théologie, Jésus va lui dire « Nicodème, stop, on arrête. On ne va pas discuter sur ce plan-là. J'ai une meilleure idée. Nicodème, il faut naître de nouveau. » Et ce qui aurait pu choquer, ce qui aurait pu achoper dans la discussion, faire en sorte que la discussion s'interrompe et que Nicodème dise « c'est parce que je suis venu chercher, je ne comprends rien à ce que tu me dis, c'est un langage qui m'est totalement imperméable, je n'arrive pas à réaliser ce que tu me dis », il aurait pu s'en aller, mais ça suscite de la discussion, ça suscite de l'interrogation chez cet homme, de dire « mais comment naître de nouveau ? Mais on ne peut pas renaître, c'est totalement impossible. On naît, on vit, on meurt et c'est terminé. Tu me dis naître, vivre et renaître à nouveau pour vivre encore, mais comment est-ce possible ?» Et Jésus va l'amener à réaliser que la foi est une ferme assurance de ce que Jésus a révélé comme plan divin. Et dans le fond, s'attacher au plan de Dieu, c'est comprendre que nos plans ne sont pas bons et que seuls les siens sont bons. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui aura travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans pour quelque chose de précis, sa vie, et puis à un moment donné, il s'entend dire « Désolé, mais le plan, il est mauvais. On va tout refaire. On va repartir à zéro. » Pas évident, hein ? Pas évident. Hein ? Après toute l'énergie dépensée, après toutes les forces qu'on aura jetées dans la bataille, s'entendre dire « tout ce que tu as fait, ça vaut zéro, ça vaut rien. C'est bien, tu as fait ce que tu as pu, tu as essayé de faire quelque chose d'honorable, mais moi je te dis que ça ne vaut rien du tout. Avec ça, tu ne vas pas plus haut que de ce que tu es capable de sauter, mais tu n'iras jamais au ciel. Impossible. » C'est humiliant, c'est terrible comme remarque. Nicodème ne va pas réussir à l'avaler tout de suite. Ça va lui prendre quelques mois, ça va lui prendre quelques années. Mais le résultat est fascinant, parce qu'à la fin du ministère de Jésus-Christ, on retrouvera cet homme Nicodème, convaincu qu'il fallait naître de nouveau et convaincu que cette expérience, il pouvait la vivre. J'aime beaucoup cette remarque de l'apôtre Paul, qui s'adressera à ses amis, à ses juifs comme lui, en leur rappelant qu'ils ont besoin de changer un petit peu leur façon d'être. Et il va enseigner à ces hommes-là, « Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Vous vous rendez compte ? « Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu le commets. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Dieu ne va pas vous juger sur ce que vous faites, mais d'abord il vous jugera sur ce que vous croyez, forcément. Ce que vous faites n'est que le résultat de ce que vous croyez. Il vous jugera sur ce que vous croyez. Faites table rase de vos acquis, renoncez à vos privilèges. À cette époque-là, les Juifs avaient de sacrés privilèges. Dans la société locale, ils en avaient plus d'un de privilèges. Et Jésus leur dira « Malheur à vous, docteurs de la loi !» Il pouvait s'adresser à un homme comme Nicodème. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quel terrible jugement, quel terrible châtiment que d'en arriver là et de réaliser que finalement ces hommes travaillaient pour le salut de leur âme et d'enfants, ils n'y arrivaient jamais. Pour résumer, Jésus a fait encore tellement d'autres choses. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il est venu sauver l'humanité. Le message se résume à ça. Alors, je ne sais pas quel est l'arrière-plan et quel est le besoin, et quels sont vos besoins. Le besoin peut être énorme, mais tant qu'on ne s'humilie pas devant Dieu, on reste totalement étranger à sa grâce. On est près et loin à la fois. On n'est vraiment pas très loin, mais dans le fond, on est à 1000 kilomètres d'être béni parce qu'on refuse de s'humilier. Cet après-midi, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et la Bible dit qu'il vous élèvera au temps convenable. Pourrais-je vous rappeler que le peuple juif, à un moment donné, a endurci son cœur? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « N'endurcissez pas votre cœur ». Refuser de s'humilier, c'est endurcir son cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Et puis, si vous ne comprenez pas ce que vous avez lu, si vous ne comprenez pas l'histoire de votre vie, et si vous ne comprenez pas l'histoire du monde, allez dans cette vérité biblique, parce que sa parole le révèle, sa parole le révèle. Et vous saurez qui il est et ce qu'il est venu faire. Et acceptez ses conseils. Il faut naître de nouveau. Il faut repartir à zéro. Si vous voulez que ça change, il faut repartir à zéro. Amen. On va prier pendant quelques instants ensemble. Seigneur, nous réalisons que le salut est une grâce et que sans cette grâce, nous ne pourrions rien faire. Nous réalisons que le salut est une bénédiction et que tu nous l'accordes de façon extraordinaire. Comment ne pas te louer pour cela ? Et comment ne pas te remercier pour tes bontés, pour ta bienveillance, pour ton secours. Je prie que tu étends ta main sur nos cœurs et nos vies. Je prie que tu agisses et que tu te manifestes maintenant. Tu connais le besoin de chacun. Tu sais la question récurrente qui revient tout le temps et qui perturbe une âme, un cœur. Et je voudrais que tu donnes la solution maintenant. Je voudrais que tu donnes la réponse parce qu'elle est dans ta main. Et il te plaira d'agir maintenant. Manifeste ta puissance, je t'en prie. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Nous te remercions pour ta grâce, te louons pour ta bienveillance. Tu es merveilleux, tu es celui qui sauve et qui délivre. Merci d'agir encore. Amen.